Vous êtes sur RTL.
Et nous accueillons Dominique. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir Sabine.
Je vous écoute.
Oui, bon, j'ai vraiment du mal à m'expliquer. Comme je disais, je crois que c'est Benoît qui est au téléphone.
C'est Paul que vous avez eu.
Ah, c'est Paul. Oui. Oui. Et puis, bon, il m'a dit que c'était simple, mais moi, pour moi, ça me semble compliqué, mais bon.
De vous exprimer?
Ben, ce qui me rend malheureuse déjà depuis quelques temps.
Oui.
Notamment ce soir, et comme je lui disais, moi, ça va être ce soir, mais demain, je vais essayer de remonter la pente, et demain, je ne parlerai pas de la même façon. Donc voilà, j'ai trois enfants. J'en ai deux grands-enfants qui ont 44 ans et 45 ans, qui sont vraiment très, très méchants avec moi.
Qui sont, pardon?
Méchants.
Ah oui?
Très méchants. Plus ils vieillissent, plus ils sont méchants. Donc, ce n'est que reproche. Enfin, en fait, ils portent vraiment un regard négatif sur moi, alors que non, ça n'a pas toujours été comme ça. Bon.
Vous pensez que ça a commencé quand, à peu près?
Alors, ma fille, ça a pratiquement toujours été comme ça depuis qu'elle a 18-19 ans. Elle en a 44 maintenant.
Oui.
Mon fils, l'aîné, qui a 45 ans, lui, ça a été pendant un certain temps, et depuis quelques années, là, on se parle plus déjà depuis un an, et puis ça s'est amplifié toujours, en fait.
Donc, lui, c'est beaucoup plus récent.
Oui. Il était... Et puis, j'ai un fils qui est plus jeune, qui a 7 ans de moins, qui... lui n'a pas du tout le même regard sur sa mère, alors qu'il a... C'est vrai qu'il a fait beaucoup de bêtises.
Oui.
Ça a été difficile. Les grands n'ont pas été facilement pris. Hein. Donc, bon, il faut que je vous dise quand même que j'ai divorcé d'avec mon ex... Je suis partie, j'avais 35 ans. Donc, mes enfants avaient 14, 13 ans et 7 ans.
D'accord. Donc, deux adolescents et votre dernier de 7 ans.
C'est ça. Donc, d'ailleurs, j'étais très, très malheureux parce que mon ex-mari les a carrément abandonnés. Quoi. Donc, il ne les a pas revus. Voilà, il n'y a plus aucun lien. Enfin bon.
Vous voulez dire qu'il vous a, il a quitté sa famille du jour au lendemain?
Non, c'est moi qui suis partie parce qu'il était violent.
Ah.
Et bon, j'ai eu tort de supporter ça pendant 15 ans. Puis je me suis retrouvée avec des dettes énormes. Enfin bon. Un parcours très, très compliqué, en fait, on va dire.
Oui.
Et puis, j'ai jamais vraiment été divorcée de mon ex-mari puisque j'ai toujours eu des dettes à payer. Et quand même, il y a 5 ans, il a fallu aussi que je pose un dossier à la Banque de France parce qu'on me demandait de payer son camion alors que c'était quelque chose qui est daté d'il y a 30 ans. Bon.
Ah oui, donc vous avez beaucoup de soucis dans la prolongation de cette séparation.
Je parle pas... Oui, j'ai eu beaucoup de soucis de séparation, mais j'étais très gentille. C'est-à-dire que bon, j'ai rien demandé, en fait. Voilà. J'ai voulu épargner, enfin, sauver mes enfants, enfin, je sais pas comment dire.
Mais vous dites très bien, vous avez voulu sauver vos enfants, donc vous avez privilégié, privilégié la survie, tout simplement.
La survie déjà quand on était avec mon ex-mari, parce que ça n'a pas été simple. Et après, j'ai privilégié mes enfants par rapport à ma vie personnelle, sauf que je n'ai jamais pu reconstruire ma vie après. J'ai fait une très grosse dépression nerveuse 10 ans plus tard, à 45 ans.
Oui.
Je suis partie, j'avais 35 ans. Par contre, mes enfants n'ont jamais compris ce qui m'est arrivé.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le moment de la séparation? Donc, vous aviez deux adolescents et votre enfant de 7 ans.
Mon petit. Ouais.
Voilà. Donc, quand vous avez décidé de partir, vous êtes partie avec eux trois.
Oui.
Comment vous leur aviez dit les choses à l'époque? Parce que peut-être que ça a un effet sur la situation actuelle.
Non, je n'aurais rien dit, en fait. J'y pensais depuis un moment, mais c'était une question de survie, en fin de compte. Je suis partie parce que j'ai eu un cancer un an avant, déjà.
Oui.
Et c'était un cancer de l'utérus, mais bon, on m'a expliqué qu'il y avait certainement de grandes, grandes raisons que ce soit le contexte. Alors que je disais rien. J'étais une personne qui ne parlait pas du tout de sa vie. Même ma mère savait pas ce que j'ai vu, quoi. Donc, Et en fait, bon, il semblerait que si mon cancer a évolué aussi vite, c'était parce que j'avais du verre. Bon, par contre, j'avais la chance d'être dans un contexte de travail.
Je vous arrête un petit instant pour donner quelques informations, parce que ça, c'est des questions qui sont souvent posées, en particulier dans des maladies comme le cancer. C'est cette hypothèse de la cause émotionnelle. Et là, on commence à en savoir un peu plus du côté de la médecine, des neurosciences, pour dire les choses simplement. Chaque fois que nous avons des émotions, notre cerveau déclenche une biochimie qui correspond à nos émotions. Par exemple, si nous sommes extrêmement stressés, notre cerveau déclenche de la noradrénaline, du cortisone, donc vraiment la biochimie du stress qui inhibe la biochimie immunitaire. Donc quand on a cette biochimie-là, on n'est plus dans la biochimie de l'immunité qui nous permet de nous défendre contre les maladies. Et toute cette biochimie passe dans notre sang, dans tout notre corps. Donc effectivement, quand nous sommes ravagés sur le plan émotionnel, il y a toute une biochimie qui irrigue notre corps, ce qui donne l'idée qu'il peut y avoir une relation directe sur ce mode-là entre les émotions que nous avons, leur traduction biochimique et la conséquence que ça a sur les organes. Donc aujourd'hui, on commence à savoir un peu plus là-dessus, ce qui montre à quel point il est important, et je crois que ça c'est un message qui concerne chacun de nous, de veiller à ce que nos émotions nous ravage le moins possible, et chaque fois que on ne peut pas faire autrement que de les ressentir, bien sûr, c'est d'essayer de nous concentrer sur le fait de les guérir, y compris en se faisant aider, parce qu'effectivement, il peut y avoir des conséquences en termes de maladie. Donc ça, c'est presque un message de prévention, de dire qu'il s'agit de faire très attention à ces émotions, dans le sens où elles ont un effet direct sur notre corps. Voilà, donc je vous laisse continuer. Je pense que ça pouvait être utile pour d'autres.
Oui, mais j'en étais complètement consciente quand ça m'est arrivé, en fait. Oui. En fait, j'ai quitté mon ex-mari un an plus tard.
Oui.
Mais parce que bon, j'avais 3 enfants, c'est vrai que je travaillais, mon ex-mari c'était quelqu'un d'irresponsable complètement, donc j'avais beaucoup de... C'était difficile, c'est vrai, j'ai eu pas mal de traumatismes avant, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, il a fallu que je surmonte beaucoup de choses, j'ai réussi à les surmonter, parce que j'avais cette force-là à ce moment-là,
oui.
Jusqu'au jour où je n'ai pas réussi.
À les forces de survie qui vous portaient à ce moment-là.
Sans doute mes enfants, je ne sais pas, c'était comme ça. Un jour, ça s'est arrêté, à 45 ans, ça s'est arrêté en fait. Mais je pense que j'en ai trop. J'ai eu un suivi psychiatrique, j'ai eu un psychiatre qui m'a suivi. Heureusement, je suis tombée sur vraiment quelqu'un de bien, qui m'a sauvée, je pense, vraiment. Qui m'a vraiment beaucoup aidée. Maintenant, il est décédé. Mais bon, mais c'est quelqu'un... C'était comme un... Mon père est mort jeune, ma mère est morte assez jeune aussi. Moi, j'étais là. J'ai pu être là avec elle quand elle est décédée. J'adorais ma mère. Elle a toujours été là auprès de moi. Mais c'est le psychiatre que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur un psychiatre. J'étais hospitalisée à 45 ans.
Oui.
Je ne savais même pas que je faisais une dépression, en fait. Parce que j'étais née dans une famille où on ne fait pas de dépression.
Oui. Ah oui. Les choses n'étaient pas nommées. Voilà. Oui, on tient.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber. Il faut toujours tenir.
Avec et l'idée puis, que c'est la volonté, que la volonté peut tout.
C'est uniquement la volonté. Oui. Et puis c'est pas de la faute non plus de nos parents. C'est qu'il faut tout accepter. Il faut être fort. Il faut être ça. Et puis c'est pas ça. Mais bon, c'était comme ça. Et puis... Moi, je suis tombée, sauf qu'après, je n'ai été soutenue par personne, en fait. Voilà.
Et que des preuves, Dominique, vous avez connues dans la solitude, de surcroît.
Dans la solitude. À part que j'ai un frère, comme j'ai dit à Paul,
oui.
J'ai un frère qui est au Québec. C'est la seule personne à qui je peux parler. Parce que ma sœur s'est suicidée.
Oui.
Ma mère est décédée après d'une maladie pulmonaire due au travail et mon père est mort d'un cancer. Il est mort un an avant que je quitte mon ex-mari. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je suis partie, avec mon cancer aussi, parce que j'ai suivi là. Parce que j'en étais arrivée à un point, c'était où je partais, où je me suicidais. Quoi. C'était un peu ça. Quoi. Et bon, Par contre, je vous appelais même pas pour ça, mais bon, c'est suite à ça aussi.
Oui.
Mes enfants ne comprennent rien à tout ça.
Mais vous savez, je pense que c'est important de remonter les fils pour savoir pourquoi la communication a pu se rompre à un moment donné avec vos enfants, au point qu'ils aient cette image erronée de vous.
Négative.
Ouais, ouais. Est-ce que c'est juste de dire que quand vous êtes parti, vous étiez tellement dans la survie que vous ne pouviez peut-être pas prendre le temps ou avoir la sérénité suffisante pour expliquer à vos enfants pourquoi vous preniez cette décision, vers où vous alliez. Peut-être vous pouviez pas, c'était...
Ah non, justement, c'est pas du tout le cas, en fait.
Ah.
Non, parce que je ne peux pas prendre trop de temps, mais en fait, le jour où je dis... Ça me trottait dans la tête, mais le jour où j'ai décidé de partir... j'avais préparé des affaires parce que moi je pouvais pas dire à mon ex-mari que j'allais partir. C'était quelqu'un de violent, donc
oui, bon, vous aviez légitimement
donc,
peur
parte,
de lui.
Non, sinon il l'aurait tué. Je sais pas moi. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées que de toute façon c'est pas quelqu'un avec qui on pouvait parler. Donc j'ai dit aux enfants qu'on allait partir.
Oui.
Donc, j'avais tout préparé dans la voiture, sauf que mon ex-mari est arrivé juste au moment où on allait fermer le coffre. Et là, par contre, eh ben, il a ouvert le coffre, il m'a dit « qu'est-ce que tu fais ?» Bon, et lui, il m'a tiré par les cheveux, les enfants ont eu peur, ils sont allés chez le voisin. Personne n'est intervenu, personne.
Vous avez, personne. Oui. Vous avez vraiment vécu l'enfer.
Je ne sais pas si c'est l'enfer, parce que bon, moi, quand j'entends mes enfants, ce n'est pas l'enfer. Donc, ils l'ont oublié. C'était l'enfer à une époque, maintenant ça n'allait plus.
Oui.
On n'en parle plus. Mais moi, je pense quand même que j'ai quand même été courageuse, mais bon... Je le pense maintenant, quand vous me le dites, mais quand je les entends, non. Mais bon, quand je les entends, on n'en parle plus jamais.
Alors justement, Dominique, quelle est la teneur de ce qu'ils vous disent quand vous dites qu'ils vous manquent de respect, qu'ils sont méchants avec vous? Qu'est-ce qu'ils vous disent en substance?
Alors mon fils, alors je vais commencer par mon fils aîné qui est moins vulgaire que ma fille. Bon, ils vont me reprocher déjà que j'ai une dépression, que j'en ai profité pour arrêter de travailler, que je suis une fainéante. Voilà, ben ça revient systématiquement, que je n'ai rien, que j'ai pas de maison, enfin bon, j'ai pas d'argent, ça c'est vrai. J'ai pas d'argent, mais bon, ça s'explique aussi, mais bon.
Oui.
C'est même pas la peine d'en discuter, puisque maintenant, plus personne, ils veulent pas en entendre parler. Puis,
Alors, juste une question concernant votre fils. Est-ce que lui, vous diriez que c'est un homme solide? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de fort, qui a pu construire sa vie, la bâtir? Ou vous diriez que c'est un homme qui est assez fragile dans l'existence?
Non, c'est un homme fort qui a réussi sa vie socialement, qui est cadre, qui en est très fier. En fait, lui, il bâtit sa vie sur la réussite sociale.
Et psychologiquement, vous diriez qu'il est fort aussi?
Il donne l'impression, peut-être qu'il ne l'est pas. Sauf que, il a
vous
une carapace
savez...
et...
En fait, dans ce type de reproches, puisque finalement, si on synthétise les reproches qu'il vous fait, il vous reproche d'être faible ou d'avoir des failles. C'est ça qui ressort de son point de vue.
Je peux vous couper. Il dit souvent, maman, j'étais très fière de toi. Tu étais très belle. Tu avais une très belle situation. Il y a aussi la notion de la maman très belle, qu'on ne touche pas, qui n'a pas de défaut. J'en ai. J'en ai, et après, c'est vrai que j'étais une maman très, très... trop. Après, la maman, elle a vécu sa vie. Et ça, il l'a pas accepté.
Il y a l'aspect rationnel, conscient, mais ce qui se passe souvent dans l'esprit d'un garçon, et ensuite qui devient un homme, c'est que quand il a affaire, dans un premier temps, à une figure de mère qu'il considère comme puissante, alors puissante, ça ne veut pas dire dominatrice, puissante, ça veut dire belle, ça veut dire rayonnante, forte, et quand à un moment donné, il voit que sa mère bascule dans une forme de faiblesse et de faille, pour lui, c'est insupportable parce qu'il a l'impression que le pilier sur lequel lui est appuyé s'effondre. Et dans ce cas-là, se produit une sorte de catastrophe psychique. Ça devient dans son esprit ou lui ou moi. Et dans ce cas, soit il retourne sa sa violence d'une certaine manière, parce que ça suscite une réaction violente quand on s'effondre. Oui. Il y a des garçons qui, dans ces cas-là, la retournent contre eux-mêmes et ils sont dans une attitude destructrice, ont du mal à se construire, ou bien ils la retournent contre leur mère. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de profondément inconscient, c'est que votre fils probablement n'a pas supporté que la figure de mère rayonnante, puissante, donc au sens de rayonnante, devienne une figure abîmée, faible et dans la faille. Je crois que c'est chez lui que ça a produit une catastrophe psychique et cet effondrement l'a amené à se déchaîner pour survivre, faute de mieux, parce que bien sûr que... Il vaudrait mieux.
Un père absent aussi, quelque part. Bon, lui, il voit son père. Hein. Mes deux autres enfants ne le voient pas. Mais lui, il voit son père. Il lui a tout pardonné. Enfin, bon... Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, à la limite, moi, j'aurais traité avec mes enfants à voir leur père. Parce que moi, mon ex-mari a abandonné aussi ses enfants. Donc, il y a que mon fils aîné qui a toujours des liens avec son père. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, c'est... Je vais vous dire franchement, c'est mon fils. Il s'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très narcissique. Donc, il tient beaucoup à l'image. L'image qu'il donne est très importante, que ce soit physique, socialement. Enfin bon.
Tout ça tourne autour de la question de puissance. Au fond, il était appuyé sur une mère puissante. Il essayait lui de devenir puissant. Vous savez, je crois que là, la chose qui est importante, il me semble que c'est votre question, c'est est-ce qu'il y a une marge pour que votre relation, déjà avec votre fils, puis on pourra dire quelques mots de votre fille après, déjà que la relation avec votre fils s'améliore. Moi, je pense que s'il y a un message à lui transmettre, parce que c'est pas de l'ordre du rationnel, je pense que c'est de l'ordre de l'inconscient, s'il y a un message à lui transmettre, c'est de lui dire « Écoute, toi, tu considères certainement à la lumière des faits que je suis dans la faiblesse et dans la faille. Moi, je peux te dire que je suis soutenue par une énorme force de survie et que cette force m'a permis de partir et qu'elle va continuer de se déployer pour construire ma vie. En fait, je crois que le message à lui délivrer, c'est que là où lui voit quelque chose qui est de l'ordre de la faille et de la faiblesse, vous puissiez lui réaffirmer votre force. Parce que c'est ça sa catastrophe, qu'il vous ait vu perdre votre force. Je pense lui faire des déclarations très simples pour lui dire que cette force existe.
Je l'ai déjà dit, je ne peux plus. En fait, je pense que c'est fini avec lui. Puis je ne suis pas vraiment soutenue par le reste de ma famille. Voilà, en plus, il est rentré dans une spirale. Je ne suis pas soutenue non plus par sa compagne. Donc, ça va en s'empirant. Et je pense que c'est vrai. Je vous appelais pour ça, mais c'est pareil pour ma fille, en fait. C'est même pire.
Dominique, simplement, gardez-le à l'esprit, ce repère. C'est-à-dire, bon, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez plus parler à votre fils. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir. Mais gardez ce repère en tête. C'est-à-dire, si à un moment donné, il y a une ouverture, que vous pouvez lui parler, que vous désirez le faire, gardez en tête qu'au fond, lui, sa catastrophe, c'est probablement que vous soyez faible inconsciemment. Donc, réaffirmez-lui calmement votre force. Peut-être ça peut réouvrir quelque chose. Alors, peut-être jamais, mais ça vaut peut-être la peine de vous en souvenir. Et du côté de votre fille, alors, qu'est-ce qu'elle vous...
Quelle est
la teneur de son...
Ma fille, ça
discours.
Dire beaucoup plus d'années, en fait.
Oui, donc vous disiez que c'est 18 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Elle a toujours... Bon. Elle a des soucis avec son père, ouais, c'est pareil. Bon, son père n'a pas été gentil, avec lui. Je pense qu'elle a beaucoup souffert aussi de la façon dont son père s'est comporté avec moi. Mmh. Moi, je pense vraiment... C'est pas bien ce que je vais dire, mais je pense qu'elle est vraiment méchante. Voilà, c'est tout. Elle s'aime... Elle est toujours méchante dans ses paroles vis-à-vis de qui que ce soit.
Dominique, ça a commencé? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir à quel moment, de votre point de vue, elle est passée d'une figure de jeune fille normale à ce que vous appelez une jeune fille méchante? Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a jamais été vraiment... Elle a été mignonne quand elle était petite.
Oui.
C'est-à-dire jusqu'à 10-12 ans. C'était vraiment... je pouvais demander n'importe quoi, être gentille, et puis... Moi, je pense qu'elle me l'a dit, je le sais, qu'elle était très malheureuse de voir sa maman malheureuse. Ça, c'est sûr. Après, on est partis, on est tous partis, de toute façon. Mais même quand elle avait 18, il y avait une certaine une jalousie vis-à-vis de sa mère, en fait. Je l'ai ressenti, parce qu'elle me disait, maman, en plus, je ne suis pas sortie pendant des années, en fait. J'avais quand même 3 enfants, donc je n'ai pas eu de vie de femme, quelque oui. part. C'est arrivé très tard dans ma vie.
Elle ne l'a pas supporté. Qu'est-ce que vous appelez une jalousie? Ça se traduisait par quoi, par exemple?
Elle disait, non, je ne supporte pas quelqu'un te drague, maman, je ne supporte pas, je ne sortirai jamais avec toi. Après ça, c'est gentil. Hein. Sinon, elle m'a traité de pute, elle m'a même tapé dessus, ma fille. Donc, mais bon, son tempérament, déjà, à la base, elle est très vulgaire, très grossière. Même pas qu'avec moi, c'est son tempérament, elle est comme ça.
Et si elle on essaie de séparer le fond de la forme, donc vous me dites que c'est d'une forme très vulgaire, mais sur le fond, ce qu'elle vous délivre comme message, c'est qu'elle veut vous garder pour elle toute seule?
C'est que je ne l'ai pas assez aimée. Alors à un moment donné, parce que ça a beaucoup changé, hein, c'est que je préférais ses frères à elle. C'est vrai, non, j'aurais peut-être pas dû lui dire. On est fait des erreurs. C'est vrai que mon fils est né, ma fille et une fille n'ont que 10 mois et demi d'écart. Et en fait, mon ex-mari voulait que je me fasse avorter ma fille.
Oui.
Et je ne me suis pas fait avorter parce que pour l'instant, je suis quelqu'un d'hyper sensible en plus. Oui. Et puis, je n'avais pas de raison de faire, même si on était jeune, j'avais 22 ans. Mais donc, j'y suis allée, puis j'ai pleuré comme une madone et je suis ressortie. Et puis, j'ai menti à mon ex-mari. Je lui ai dit, non, il est trop tard. Parce que, bon, en plus, ça a été découvert tard, j'ai pas eu de retour de couche. Enfin, bon, j'étais jeune en plus. Donc,
elle le sait, ça, votre fille, que vous avez, à quel point vous avez lutté pour qu'elle puisse naître?
Oui,
elle
le sait.
D'accord.
Oui, je lui ai dit. Oui, j'aurais peut-être pas dû, peut-être.
Hein, moi, je crois que si, au contraire, vous lui avez dit à quel point votre désir était ardent qu'elle vienne au monde.
Ah oui, puis en plus, je l'ai porté. Mes 3 enfants, je les ai portés avec bonheur, quoi. Pour moi, ça a été des miracles. Moi, j'ai toujours été heureuse d'avoir des enfants. Mmh. Je les ai aimés plus que moi, quoi.
Oui. Et vous dites qu'à un moment donné, vous lui avez laissé, elle a compris que vous préfériez vos fils.
Ses frères, ouais.
Alors comment ça s'est tout. Et pourquoi ça s'est passé comme ça?
Déjà, son père n'était pas gentil avec elle.
Oui.
Voilà. Il était toujours. Bon, de toute façon, elle était bête. Mais bon, il l'appelait la grande crade, enfin, des choses comme ça. Puis elle pleurait. Puis je lui disais, il lui dit, écoute pas papa, il dit ça parce que il sait que ça va te toucher, tu vas pleurer. Donc tu fais comme si tu ne l'entendais pas. Moi, j'ai toujours été comme ça, moi, avec mes enfants, en fait. J'ai jamais été une maman très, très. J'ai jamais été autoritaire. J'ai toujours essayé de les comprendre. Mmh. J'ai sans doute eu tort parce que c'est bien ça qui s'est retourné contre moi, je pense, avec le temps.
Je ne pense pas, Dominique, que vous ayez eu tort. Je pense que vous avez raison, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de traiter un être humain que d'essayer de le comprendre et de l'accompagner. Enfin,
oui. Mais quand je vois le résultat,
oui,
franchement...
Mais je crois que du côté... Là, c'est vraiment intéressant, votre témoignage, parce que ça montre le fait que dans les difficultés qu'il peut y avoir, il y a vraiment la part inconsciente. Et je pense que vraiment, pour vos enfants, enfin, votre fille, on en a parlé, oui. C'est qu'inconsciemment il ne supporte pas votre faille, et votre fille c'est autre chose, mais je pense que ça procède aussi de l'inconscient. C'est pas parce que vous avez mal fait d'être trop douce avec elle, c'est que je pense qu'il y a une blessure inconsciente qu'elle traite de cette manière là vous allez, ou plus exactement deux, si je vous entends bien, vous allez me dire si ça vous paraît juste. Oui. Tout d'abord, votre fille était quelqu'un d'extrêmement sensible. Ça signifie...
À la base, oui.
Oui, à la base. Donc, c'est sa vraie nature. Ça signifie que sa sensibilité a certainement été frappée de plein fouet par la violence à laquelle elle a assisté. Et vous savez, quand quelqu'un a une extrême sensibilité au point de souffrir de la violence à laquelle il est confronté, la première réaction, c'est une réaction d'urgence, c'est de fabriquer une carapace. C'est de mettre une armure et de lutter contre sa propre sensibilité. Ça s'appelle une formation réactionnelle en psychanalyse. C'est-à-dire que votre fille était hypersensible et la formation réactionnelle qu'elle a mise en place pour se défendre contre cette sensibilité qui pouvait l'engloutir, c'était de développer cette armure, et c'est même plus qu'une armure, c'est même une façade de méchanceté. Ça s'est renversé dans le contraire. Donc je pense que c'est de là que vient sa méchanceté. Et il me semble qu'il y a un deuxième élément inconscient chez elle, c'est que elle est dans une demande d'amour gigantesque. Et à partir du moment où elle a pu penser que vous préfériez les garçons, ou qu'elle a pu penser que vous pourriez adresser votre amour à un autre compagnon, sa demande d'amour à elle s'est déchaînée sur un mode passionnel. Donc vous voyez, je crois que c'est vraiment dans l'inconscient que ça se passe. C'est pourquoi je sais pas, où en êtes-vous aujourd'hui de la communication avec votre fille? Est-ce qu'il...
Ah non, ça s'est très mal passé la semaine dernière, c'est pour ça que je vous ai appelé. Oui. Ça a recommencé en fait, c'est récurrent, hein. Ça arrive tout le temps, pas tout le temps. Après, ça repart parce qu'elle fait comme si c'était rien passé. Et puis moi, bien sûr, ça fait comme si c'était rien passé. Bon, j'ai essayé de lui parler, mais ça marche pas. Et puis là, maintenant, non, je peux plus, quoi. Moi, elle me démolit.
Oui.
Et c'est là, à chaque fois, il faut que je... À chaque fois, il faut moi que je... C'est-à-dire que moi, ça me... Même si je sais que c'est pas vrai... je me culpabilise, ça me... Alors que moi, je fais beaucoup, je travaille pour être bien dans ma vie.
Oui.
Que je suis bien dans ma vie, c'est pas naturel maintenant.
Oui.
Parce que moi aussi, j'ai été démolie.
Bien sûr. Et vous, vous êtes aidée? Comment vous...
Oh, oui, je suis allée voir un psychologue déjà en début d'année.
Oui.
Qui m'a dit déjà que mon fils... Mais il fallait que je fasse le deuil, parce que bon...
Que vous, pardon? Reçoit...
Que vous? Que je fasse le deuil, mon fils aîné. Parce qu'il ressemble beaucoup à son père, c'est vrai. C'est quelqu'un d'extrêmement narcissique, qui s'aime. C'est pas croyable, quoi. Il n'aime que lui, d'ailleurs, je pense que c'est vrai. Comme son père, c'est vrai. Bon, il me dit certaines choses, je pourrais même vous dire exactement, mais j'y avais même pas pensé, en fait. Et je lui ai dit, ah oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui n'aime personne, en fait.
Ah, c'est...
Qui n'a aucune empathie, et ma fille est pareille.
Oui.
Moi, je suis très sensible. Moi, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Mes parents étaient comme ça. Mon frère est comme ça. Ma sœur était comme ça. On a beaucoup d'empathie pour les gens qui souffrent, même si c'est pas notre famille, même si on peut rien y faire, mais oui. Ça nous touche quelque part. Sauf que rien ne les touche, à part eux. Voilà.
Vous voyez toujours votre psychologue, Dominique?
Non, j'ai arrêté parce que ça allait beaucoup mieux.
Oui.
Donc, il y a des gens qui ont... C'est très difficile de voir un psychologue, donc il n'y a pas beaucoup de place. Donc, moi, comme ça allait beaucoup mieux, je l'ai recroisé une fois. Je marchais parce que je marche. Enfin, là, j'ai arrêté depuis une semaine, mais je marche beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai fait Compostelle, par exemple. Donc, et vraiment, c'était le plus beau moment de ma vie, ça a été de faire ce chemin.
Oui.
Mais je n'ai pas pu le refaire depuis, puisque bon. Il y a eu la Covid qui est arrivée, parce que je faisais dortoir et popote. Enfin, au fil du chemin, j'ai appris des choses.
Oui.
Tout le monde, hein. Et pour moi, c'est ça la vie, en fait. Pour moi, la vie, c'est ça.
En fait, c'est, là où vous vous sentez bien aujourd'hui, c'est quand vous allez chercher des ressources spirituelles.
J'ai toujours été comme ça.
Oui. Vous cherchez une forme de paix, là, maintenant, et d'apaisement.
J'ai toujours été comme ça. J'étais gamine, j'ai habité à la campagne pendant 6 ans avec mes parents. Et j'écrivais des poèmes. La couche de soleil, je trouvais ça super beau. Je m'allongeais dans l'air, je regardais les nuages, je trouvais ça beau. En fait, j'ai toujours été comme ça. Et c'est ce qui me rend heureuse. En fait, moi, j'ai pas besoin d'avoir plein de choses matérielles, ce que mes enfants ne comprennent pas. Et ce que ma demi-sœur ne comprend pas non plus, c'est qu'ils pensent que je suis jalouse en plus de leur bien-être matériel, alors que moi, c'est vraiment pas mon truc.
Vous savez, je pense que, quelle que soit la source, toutes les interprétations qui nous portent à voir les autres comme des monstres ne nous aident pas. Parce que ça... Comment dire, ça fige le problème. Quand on dit que un tel est un monstre, que vous êtes dans la jalousie, que ça n'aide pas. Je pense qu'à travers tout ce que vous dites, vous avez des enfants qui ont énormément souffert, comme vous, de la situation, que chacun a sa problématique inconsciente, que pour l'instant, vos enfants n'ont pas trouvé la voie pour guérir. À leur âge, à plus de 40 ans, c'est leur responsabilité de chercher à guérir et de voir comment ils pourraient le faire. Donc je crois que pour l'instant, vous ne pouvez rien faire pour eux, mais je ne crois pas que nourrir l'image du fait qu'ils soient monstrueux ou méchants, ça puisse vous aider. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison, mais je pense qu'à travers ce que vous me dites, là, une phase d'apaisement pour vous serait certainement la meilleure chose à faire pour que vous puissiez continuer à puiser dans ces ressources spirituelles que vous avez. Et quand vous serez apaisé, quand vous aurez pu vivre un peu plus sereinement après toute cette série de malheurs, peut-être qu'un jour, il y aura une ouverture pour parler à vos enfants, à l'un ou à l'autre. Peut-être que eux, quelque chose les amènera à bouger et vous pourrez leur dire des choses. Mais là, il me semble que l'urgence, c'est que vous n'écoutiez pas tous les jugements radicaux sur qui que ce soit et que vous puissiez vraiment aller chercher vos ressources dans cette partie de vous qui est sensible à la contemplation, à la beauté du monde.
C'est ce que je fais toujours, en fait.
Oui.
Réussi à surmonter, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Comme ça, j'arrive toujours à surmonter ce qui m'arrive, sauf que c'est vraiment difficile, quoi. Ça, à chaque fois, ça demande, c'est pas naturel, en fait. Ça demande toujours un gros travail sur soi. Et c'est un constat d'échec quand même, quelque part, même si je peux rien faire.
C'est pas votre échec, Dominique, c'est leur route. Et là, pour l'instant, vous n'avez pas de prise là-dessus. Peut-être qu'un jour, il y a une ouverture. On ne sait jamais, parce qu'il peut y avoir des prises de conscience dans leur vie, des événements. Je crois que là, vraiment, l'urgence, c'est que vous vous répariez le plus possible en allant chercher vos ressources dans ce qui a du sens pour vous. Et peut-être qu'ensuite, il y aura des possibilités. En tout cas, vraiment, on vous remercie pour ce témoignage. On a pris le temps parce que c'est très riche. Enfin, il y a beaucoup de dimensions. Ça permet aussi de parler de registre de l'inconscient, parce que parfois la lecture ne peut pas se faire uniquement sur la partie visible, mais il y a une problématique plus profonde chez l'autre. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent toujours se produire dans les conflits. Et puis, vous avez eu beaucoup de courage et vous êtes vous aussi, on en parlait hier à l'antenne, dans un exemple de résilience où vous allez chercher dans ce qui a du sens pour vous, ce qui peut vous permettre de continuer.
Je sais bien que je ne suis pas la seule personne à vivre des choses comme ça, c'est ça.
Eh bien, merci beaucoup Dominique. Bon courage à vous et prenez soin de vous.
Oui, je vous remercie beaucoup.
Voilà. Avec plaisir. Au revoir.
Sabine Calégari, parlons-nous jusqu'à 1h sur RTL.